Si vous êtes au courant de toutes les informations concernant l'équipe de Dark Side of the Prog, nos recommandations du week-end ou encore l'avancée de nos futurs épisodes, nous vous invitons vivement à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, les liens sont en description. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dark Side of the Prog, l'émission qui vous parle de musique progressive et progressiste. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mon compère Léo, qui est l'homme le plus beau de Cannes. Bonjour.
Bonsoir.
Et pour cet épisode un petit peu spécial, j'ai l'impression d'être une youtubeuse beauté, épisode un peu spécial parce qu'on accueille aujourd'hui notre premier invité, dans l'émission, le beau, le grand, mesdames et messieurs, je vous présente Loïs.
Oui, alors grand raté, parce que je fais quand même 1m69, donc en termes de grandeur, on est quand même pas sur quelque chose qui s'est vraiment établi. Pour le reste, je laisserai les autres juger. Bonjour, bonsoir à tous, j'ai envie de dire. Merci de l'invitation. En tout cas,
merci d'avoir accepté.
Merci vraiment d'avoir accepté, ça fait super plaisir.
Oh, bah, vous savez, dès qu'il s'agit de parler de musique, si je peux m'incruster un peu partout, moi, il n'y a pas de problème.
De musique et surtout de fuzz.
Le fuzz. C'est le Fuse Power, parce que oui, vous vous doutez bien que on a invité Loïs pour parler un petit peu de son dada. Donc aujourd'hui, on va parler du Stoner Prog. Alors bon, Loïs, vous connaissez la scène? Ça vous dit quelque chose?
Là, quoi?
Non, je sais pas.
Je connais pas. Tu sais, moi, j'écoute rien, tu sais, je sais pas ce que c'est. Moi, je découvre, hein, tu sais, Internet, tout ça, je sais pas ce que c'est.
Internet.
L'Internet. Net. Ouh, j'ai des références pas ouf. Donc aujourd'hui, pour cet épisode 3 de Dark Side of the Prog, donc en compagnie de notre cher Loïs, nous allons parler donc du Stoner Prog. Alors déjà, petite question un petit peu. Loïs, je pense que tout le monde se doute, mais ton rapport un peu avec le Stoner?
Rapport avec le Stoner, il date depuis 7 ans maintenant, hein, c'est ça, 2013. Enfin, peut-être un peu avant, mais c'est dans mon 2013 où je suis tombé dedans avec... premier album de Mars Red Sky qui a été une découverte vraiment et une sacrée gifle. Après j'ai creusé le Stoner, le Doom, le Sludge, le Stoner Doom, le Stoner Prog, le Psychrock, le Revival, le Krautrock, le rock psych instrumental, et on peut faire pendant 47 minutes sans discontinuer, puisque maintenant la musique actuelle adore mettre des étiquettes de partout pour faire de plus en plus de genres et perdre de plus en plus les gens. C'est vraiment génial, mais bon, le Stoner c'est un petit peu ce que j'aime, et voilà.
D'ailleurs, en parlant de Mafra Sky, confère la petite vidéo Discult que tu avais fait avec Chris Enjoy the Noise aussi, qui l'avait trouvé cool.
Oui.
Et donc, du coup, je te pose la question à toi, Léo, quel est un peu ton rapport avec le Stoner?
Mais justement, comment dire? Moi, le Stoner, j'ai commencé à en écouter. En fait, j'entendais parler de Mars Red Sky sur un live de Chris, sur Enjoy the Noise. Puis ensuite, je suis retombé sur la vidéo Discult de Loïs. Et du coup, j'ai pensé à l'album juste après ça. Puis ensuite, j'y suis retourné l'année dernière et j'ai bouffé toute la discographie parce que c'était beaucoup trop bien. Et du coup, ça m'a amené à écouter un maximum de fuzz, en passant par Chaos, Sleep, toutes ces joyeusetés. Et puis même avec la scène de Très Belle Découverte aussi. Et juste avant le confinement, j'ai même pu aller les voir en concert et c'était vachement bien. Mais du coup, le Stoner, c'est vrai que c'est assez récent pour moi, mais c'est vraiment un style que j'aime beaucoup.
Eh bien, pour le coup, moi, je crois que je suis le plus novice d'entre vous, parce que j'ai commencé il y a quoi, il y a 3 mois, grâce à ce cher Paul Bruff, qui m'a parlé de Elder. Donc j'ai écouté Elder, et j'ai trouvé ça vachement cool. Et du coup, j'ai continué, et puis il m'a dit, écoute la scène, personne connaît ici apparemment. et j'ai trouvé ça vachement bien, et je me suis aventuré un peu dans le monde du Stoner, j'ai commencé la drogue, et bah du coup, c'est cool.
Ne commencez jamais la drogue, faites comme moi, restez straight edge.
Ah ben ouais, t'inquiète pas.
Donc pour commencer cet épisode, on va vous parler d'un petit album sorti il y a maintenant plus de 8 ans, le temps passe vite. On va vous parler de l'album Seven Thunders War de Stone Jesus. Stone Jesus, pardon, c'est un trio ukrainien. Alors, d'avance, je m'excuse si j'écorche de manière assez horrible les noms et prénoms des acteurs du groupe, mais bon, l'Ukraine, les prénoms, etc., c'est pas ouf. Donc, on a à la guitare et au chant Igor Sidorenko. En tant que bassiste, on a Sergei Slivar. Et à la batterie, on a Dmitro Zinchenko. J'ai pas été mauvais, ça va.
Ça va.
Ce bon vieux Igor, le Meme Lord.
Ah mais oui.
Parce que si jamais Stone Jesus vous connaissez pas, déjà musicalement c'est génial. Et sur Twitter et Facebook et sur Instagram c'est des Meme Lords, mais c'est magnifique. Enfin c'est Igor surtout je pense qu'il gère. Mais quel Meme Lord, incroyable.
Je suis allé voir le Twitter et c'est vrai que c'est un peu une mime, une mine à mème.
Ah ouais, à fond là-dedans.
Mais tout justement, c'est ça qui est marrant, on a l'habitude surtout avec les groupes actuels avec une communication très, très droite, très stricte. Et là, ça fait du bien d'avoir quelques groupes qui font beaucoup de vannes.
Best.
Oh, ils s'en battent les couilles.
Oh, oui, c'est ça, mais.
Ah, mais clairement.
Il me semble que c'était après le déconfinement ou durant le confinement où t'avais posté voici notre nouvel album avec que des morceaux en mode Wash Your Hands et tout, ça m'avait fumé.
Ouais, non, c'est des mecs qui. Et justement, c'est ce qui participe au fait qu'ils soient très appréciés de la scène stoner, c'est que déjà musicalement ils font de très très bonnes choses. Et puis bah voilà, c'est un groupe qui est accessible, qui balance des grandes vannes, qui balance des grands mèmes. Forcément, bah tu vois un groupe qui est comme ça, t'as envie de t'attacher à eux parce que tu te dis ok,
les mecs, aimer, ouais.
Les mecs sont comme nous au final. Tu vois, y a pas ce côté. Communication très pro, un peu star, un peu machin, non, c'est pas que cool, ils sont comme nous, ils lancent des mèmes, ils lancent des vannes, c'est parfait.
Effectivement, et ça qui est beau et tout, justement, moi pour le coup, l'album dont on va parler aujourd'hui, c'était le tout premier album du groupe que j'écoutais, et quand j'ai vu le compte Twitter, j'ai fait, mais en fait, les types, ils sont trop cool, quoi, j'ai tellement envie de les aimer, mais c'est ouf.
Ah, mais c'est des amours.
Et donc, comme je vous l'ai dit juste avant, on va parler du deuxième album du groupe, donc l'album Seven Thunders Roar, qui est sorti en 2012. 3 ans après la formation du groupe, donc en 2009. L'album contient 5 titres et dure 47 minutes. Alors du coup, je vais laisser la parole à notre invité, Loïs. Qu'en as-tu pensé de cet album ?
Bon, c'est l'album avec lequel j'ai découvert Stone Jesus, parce qu'il y a le tube, j'ai envie de dire, de Stone Jesus, qui est I'm the Mountain, qui est le morceau qui est représentatif de la... Pas de la carrière, c'est pas représentatif de la carrière, mais disons que s'il y a un titre associé avec les Stone Jesus, c'est I'm the Mountain. C'est une pièce de 16 minutes qui prend son temps, qui passe par des différentes phases. Ça, c'est posé au début, ça s'agite un peu, ça redescend, ça remonte. C'est un vrai voyage ce titre. Et puis bon, il y a des paroles que le public peut hurler. Le simple fait d'avoir I'm the Mountain et d'hurler avec le public, c'est quand même tout de suite très sympa. Puis bon, les autres morceaux sont excellents. Stormy Monday, je trouve que c'est un excellent morceau. Electric Mistress aussi. Enfin, c'est un super album. Pour moi, c'est, je pense, le meilleur de leur discographie encore maintenant. Pas que les autres soient mauvais, mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment au-dessus.
Et pour le coup, toi, Léo, t'en as pensé quoi ?
Moi, alors déjà, j'ai découvert, c'est grâce à Spotify, parce que j'ai commencé à écouter tout ce qui est Caius et Mars Red Sky. Et on m'a conseillé cet album, je trouvais la pochette super sympa. J'ai lancé, j'ai pris une giflasse. C'était beaucoup trop bien. L'album qui commence déjà avec Bright Like the Morning, c'est cette intro... Avec ses sons, cette guitare. Moi j'étais tout de suite
emporté. Il est si doux le morceau.
C'est ça. C'est des morceaux si doux. Et après, t'enchaînes sur Electric Mistress, un rouleau compresseur. Après, t'as Indian, qui est peut-être le morceau le moins bon de l'album, je trouve. Que j'aime beaucoup, tu vois, mais.
C'est le plus court, déjà.
Ouais, le plus court, mais même le plus classique dans sa forme. Et après, quand t'as I'm the Mountain, moi c'est bon. T'es parti très loin. Ce morceau avec la voix de Igor, que je trouve juste magnifique. Ces petits arpèges de guitare, cette montée en puissance. Et puis ça finit sur Stormy Monday, qui est une super outro à l'album, je trouve. Franchement, je trouve très peu de défauts à cet album, et ça fait peut-être partie des 30 disques que voilà, je me lasserai jamais, je pense. Parce que j'adore ce disque.
Pour le coup, on est unanime sur une chose, c'est que le morceau I Am The Mountain est mais juste un chef-d'œuvre, pour le coup. Moi, je me souviens que la première fois que je l'ai écouté, j'ai fini les 16 minutes du morceau, j'ai fait « qu'est-ce que je viens d'écouter ?»
Ça passe d'un
coup. C'était assez balèze. Pour le coup, le morceau, l'album commence avec un morceau assez calme, donc Bright Like the Morning, où c'est un morceau à rallonge hein, qui dépasse les 10 minutes, il me semble.
Non, il est 8-9 minutes, il me semble seulement.
Bah, il fait donc, 7:47, okay. Bright Like the Morning.
Eh ben, je raconte que de la merde, bonjour.
Ça, j'en parle pas d'habitude.
Oui, c'est pas faux. Pour le coup, donc oui, on commence tout de même, même si je raconte des conneries, on commence avec un morceau qui est assez calme, qui est, je trouve, très lumineux un petit peu sa manière dont il amène cette petite partie, etc. Après, on a, je trouve aussi sur l'album, des refrains super accrocheurs.
Ah oui.
Je trouve que c'est un truc mais qui est complètement calé pour être super efficace sur scène. Quoi.
Et dire que je devais aller les voir en concert. Oh, je suis dégoûté.
Je les ai vus deux fois, moi.
Oh, ça devait être tellement bien.
Je les ai vus deux fois avec notamment une première partie d'un petit groupe bordelais qui s'appelle Red Sky d'ailleurs.
Oh non,
c'était une petite date, petite date à Lyon. Je dois voir que j'étais pas mécontent d'être présent lors de cette date. C'était très très bien.
Petite date, pas piqué des hannetons.
Exactement. Puis la deuxième fois, je les ai vus au Hellfest, je les ai interviewés.
Allez, je décède.
Et il faut savoir que si vous considérez que ce sont des mecs très drôles sur internet, il faut savoir qu'en vrai ce sont des crèmes, ce sont des amours. Et que c'était un très très bon moment.
Ah, j'imagine bien.
Pour le coup, j'en doute pas. Hein, parce que vu comment ils sont marrants sur internet, j'imagine même pas en vrai comment ça doit être la rigolade. Et pour le coup, moi je trouve par contre que le morceau Electric Mistress, je trouve super groovy. J'ai vraiment. Le petit balancement de tête du musicien un peu bobo, tu sais, qui fait du jazz, qui s'activait pendant le morceau. J'ai trouvé ça super groovy. En tout cas, je trouve que le morceau Indians dont t'as parlé tout à l'heure, je trouve que c'est un petit peu l'anomalie de l'album, en fait. Pour le coup, parce que c'est le seul morceau qui dure moins de 8 minutes, déjà, dans l'album, sur les 5 titres. Et je le trouve vraiment super direct, super efficace, contrairement aux autres morceaux qui prennent leur temps, etc., avec des morceaux majoritairement longs. Donc ça m'a un petit peu fait tilté de me dire que bah il y a un morceau déjà qui durait moins de 5 minutes. Pour le coup, il y a un truc qui m'a fait aussi tilté, c'est la voix de Igor. Enfin, c'est juste incroyable.
Elle est magnifique. Il a un timbre moi que je trouve exceptionnel. J'adore vraiment ce.
Par exemple sur I Am The Mountain, quand il gueule justement I Am The Mountain, enfin c'est. Je pourrais pas le dire, et Léo non plus, mais je pense que Loïs pourra le dire. Je pense qu'en concert, ça va être un rouleau compresseur assez monstrueux dans la gueule.
Ouais, faut savoir que quand je l'ai vu à Lyon, le public était assez relou parce qu'il demandait à chaque fois I'm the Mountain, I'm the Mountain. C'était bon, parfait, très bien. Et quand I'm the Mountain a débarré, plus personne connaissait les paroles à part I'm the Mountain, donc c'était très drôle. Ah, yes. Et c'est vrai que quand il y a le passage où ça monte et qu'il hurle I am the Mountain, c'est vraiment bien. Là, tu kiffes. Là, vraiment, tu kiffes. Et ce qui est bien, c'est que bah, voilà, c'est très très bien produit, le son est très très. Il est vraiment top sur album, mais en live ça sonne vraiment très bien aussi. Et ça, c'est très une qualité qu'ils ont.
Ouais, parce que pour le coup, alors je vous l'ai pas dit, mais Stone Jesus, c'est un mélange de stoner très très doom sur les bords. Et pour le coup, moi je sais que quand il y a de la musique à peu près assimilée à du doom, quand c'est mal produit, j'ai du mal. Mais là, pour le coup, vraiment, ça passe vraiment très très bien. C'est un rouleau compressant dans la gueule, par contre. C'est vraiment tout l'album, à part le morceau Indians, où je trouve que c'est peut-être le morceau que je préfère le moins sur l'album. Mais sinon, les quatre autres, c'est juste mais des rouleaux compresseurs, surtout le dernier album, le morceau de l'album, Stormy Monday, où c'est incroyable comment ça m'a roulé dessus, quoi.
Ah oui, mais voilà. Après, tu vois, moi, cet album, je pense que c'est vraiment mon préféré du groupe, mais comme dit Loïs, les autres sont très très bien. First Communion, c'est vraiment stoner doom. On a un peu les petites briques de prog, mais vraiment stoner doom pur et dur. Et avec des super morceaux comme Blackwoods. Après, t'as The Harvest, pour moi, qui est un peu énigmatique. Il y a des trucs qui sont super bons, des trucs moins bons. Et après, voilà, moi je conseille aussi Pilgrims. Si vous aimez Stoner Dance Horror, Pilgrims, c'est excellent aussi.
Ah, par contre, faut pas. Si vous avez envie d'avoir du I'm the Mountain-like. Pilgrims, il faut vous brûler la nuque, hein, parce qu'ils sont allés vraiment explorer plein d'autres trucs. Je le trouve beaucoup plus prog, justement, dans son approche du rock. Et par prog, j'entends progressiste. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de prendre ce qu'il y avait comme basse sonore et d'aller un peu plus loin, d'aller chercher d'autres sonorités, d'autres, je sais pas, d'autres idées de composition. Notamment Water Me qui peut surprendre, que je trouve très cool, mais qui peut surprendre. Donc ouais, non, Pilgrims il peut surprendre, mais il y a de très bonnes choses dedans si on veut lui donner sa chance.
Il a une atmosphère assez particulière en fait, mais moi j'adore, vraiment.
Et bien sur ces belles paroles, je vous propose qu'on passe un petit morceau. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bah de toute façon, il n'y a pas trop de choix, hein, vu la durée des morceaux, ça va pas. sauf si vous, il n'y a pas de limite, et voilà, mais après...
Pour le coup, en sachant qu'on fait un stoner, bien sûr. Un podcast sur
stoner
le prog.
Sur le podcast, oui, bien sûr.
Ouais. un podcast sur le prog, et là pour le coup sur le stoner prog, donc deux joueurs qui ont l'habitude de bien tabasser au niveau des durées de morceaux, je pense qu'on va pas trop avoir le choix. Vous allez bouffer des morceaux un peu longs dans cet épisode, même tout au long de l'émission en général, je pense. Hein. Donc on avait dit qu'on passerait le morceau d'ouverture Bright Like the Morning, donc un morceau super. Super long, un peu, quand même, pour un podcast.
Oh, 8 minutes, ça va. Oh. Ah,
ça passe comme pépé dans le
monde. Ça va, on y est.
C'est pas comme si dans la scène, on avait calé des morceaux de 8 minutes de Doom, hein, je veux dire, au bout d'un moment.
Je sens le désespoir de Walter jusqu'ici.
Bah, ça va, parce qu'on les passe pas en direct, on les passe en post, on les met en post-prod, donc au moins, elle peut skip les morceaux, elle fait « Non, mais c'est pas grave, je reprends quand on discute, c'est pas gênant. »
Sur ce, on vous laisse un petit instant, on vous laisse écouter le morceau Bright Like the Morning. Pardon. Et vous êtes toujours donc dans l'épisode 3 de Dark Side of the Prog sur le Stoner Prog avec le copain Loïs. Alors pour ce deuxième album de l'épisode, on va vous parler d'un groupe français, Cocorico. UPK. On va vous parler d'un trio toulousain, donc qui vient du sud de la France. Un trio qui se prénomme Slift. Donc comme je vous le dis, un trio donc, c'est composé de 3 personnes, bravo Manu. Le groupe est composé de Jean Fossat à la guitare et au chant, de Rémi Fossat, donc le frère de Jean à la basse, et de Canet Floret, ou Flore, à la batterie. L'album dont on parle aujourd'hui est le dernier en date, celui qui est sorti en début d'année. Donc début d'année pas trop mal comparé au reste de l'année qu'on a vécu, coucou Covid.
Précise que c'est 2020, hein. Parce que si jamais les gens écoutent en 2021...
Ah oui, c'est pas faux, oui, effectivement.
Donc voilà, on parle de début d'année 2020, hein, comme ça vous le sachez. Vous êtes exprès. Ça...
Oui, j'ai bugué.
J'ai bien compris que tu étais en train de te dire, attends, est-ce qu'il a bien dit ce que j'ai... Hein, quoi ? Non, c'était fait exprès.
Que, ouais. Donc, Eumon est le troisième album du groupe, qui est sorti le 28 février 2020, donc. Il est sorti sur deux labels différents, donc Vicious Circle Records et sur Stolen Body Records. L'album compte à son actif 11 titres pour 1h12 d'album. Il a été enregistré à Toulouse et l'artwork a été réalisé, très bel artwork d'ailleurs, a été réalisé par Kaza. Cette fois-ci, je vais demander à Léo en premier ce qu'il en pense de ce petit album de Slift.
Alors, déjà pour parler de ma découverte, première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur un podcast, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle YCKM, un podcast que j'aime beaucoup, qui parle de métal. Et ils ont parlé de ce disque, et ils avaient passé le morceau Hyperion, j'ai trouvé ça très bizarre. Et puis j'ai vu sur la chaîne YouTube Tangerine qu'ils en reparlaient de ce disque. Je me suis dit bon, bah, je vais aller écouter. Et première écoute, j'ai pas accroché parce que c'est un album qui est quand même assez spécial. Il y a des sons un peu triturés, des guitares qui mettent les potards à 200. C'est un album très particulier. Et puis plus je l'ai écouté, et plus j'ai trouvé des trucs qui me plaisaient. Et puis voilà, maintenant c'est un album que depuis que je l'ai découvert, je l'écoute assez régulièrement. Et je trouve qu'il y a vraiment plein d'ambiances différentes, mais juste vraiment, le gros défaut que je trouve, c'est qu'il y a vraiment un trop plein d'effets, je trouve. Des fois, c'est un peu too much, genre, je sais pas si vous avez fait ça aussi, mais...
Je trouve que cet album, il est pas parfait, déjà de base. Je le trouve beaucoup trop long et beaucoup trop condensé.
C'est ça.
Pleinement l'apprécier. En fait, je pense que s'ils avaient coupé 2-3 morceaux pour en faire une œuvre de 45 minutes... À la rigueur 50, je pense que ça aurait été un album beaucoup plus haut dans mon top personnel et dans le top, je pense, de pas mal de personnes. Même si, à mon avis, on risque de le retrouver dans pas mal de top d'amorateurs, ouais. Ça veut dire d'amoureux slash adorateurs de Stoner. Mais en fait, ce qui me génouille un peu, c'est vraiment ce côté parpaing que tu te prends vraiment. T'as l'impression d'écouter une seule entité assez vénère avec énormément de réverb, tout s'enchaîne,
ah oui,
etc. etc. Mais et ce qui m'emmerde, c'est que par exemple il y a un morceau putain, j'ai perdu le titre car je suis vraiment très bien, j'ai très bien bossé mon sujet.
Altitude Lake.
Merci, exactement celui-là que je cherchais, qui est au milieu de l'album et qui, quand tu l'écoutes, pour moi ne ressort absolument pas, alors que quand il sort à part, notamment sur le live de KEXP, qui est une magnifique chaîne YouTube.
Oh mais oui.
Et je trouve que ce morceau, il est formidable, c'est vraiment un des meilleurs de l'année. Et du coup, je trouve que voilà, l'album lui rend pas hommage. Pareil pour Lions, Tigers and Bears qui termine l'album. Je trouve que comme tu t'es tapé tout ce qu'il y a avant, je trouve qu'il ressort moins, alors que le morceau en lui-même, il y a une version live de 18 minutes que le groupe a mise sur sa chaîne YouTube perso, où tu fais putain, mais le morceau est ouf en fait.
Aïe.
Et donc bon, ça reste une très belle œuvre. Ça reste une très très belle œuvre. Je pense que ce groupe va vraiment continuer à grandir dans les mois et les années qui vont suivre, parce qu'ils se sont créé une bonne fanbase avec ce Omen, et à mon avis ça va pas s'arrêter de grandir. Mais il faudrait affiner un peu tout ça.
C'est vrai.
Et pour le coup, on voit la petite communauté qui commence à se bâtir autour du groupe, parce que quand j'ai regardé un petit peu les avis sur le bandcamp du groupe, c'était vraiment full éloge, hein.
Bah déjà le fait De passer sur le live KEXP, déjà rien que ça leur a apporté énormément, parce que KEXP est une chaîne qui est énormément suivie et qui se plante très rarement dans sa programmation de live et dans ses choix de groupe. C'est très souvent, tu prends un live qui expire au hasard, t'es là, tu fais ouais, bon, ok, c'est vachement bien. Donc déjà, ça les a aidés. Et puis ben, voilà, le fait de passer passer sur cette chaîne, les gens ont découvert, ça a fait un petit buzz en début d'année sur dans la sphère stoner, puisqu'en plus c'est un groupe français, donc Cocorico, on peut être un petit peu chauvin. Et du coup, ouais, non, c'est un super album. Le live est super bien et tu vois que les mecs sont très bons aussi. Tu vois qu'ils maîtrisent parfaitement ce qu'ils font et que voilà, ça reste un groupe encore jeune mais qui a énormément de potentiel, et je leur souhaite de durer et de continuer sur cette lancée et peut-être un jour pouvoir les voir en live. Mais bon, ça, malheureusement, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment.
Malheureusement, ouais, pour le coup. Donc on va voir d'ailleurs, petit point actualité politique, demain il y a Macron qui parle, voilà, c'est tout.
Ah yes.
C'est bien, puisque comme l'épisode va sortir forcément après demain,
ah bah oui, carrément.
Qui est évoqué, je pense que les gens ils vont se dire putain, mais merde, il parle demain. Bah non, c'est ouais. Passé.
Donc c'est pas impossible que quand vous écoutez cet épisode, enfin quand vous écouterez cet épisode, ou le français, enfin vous soyez, où vous soyez, par exemple si vous êtes comme moi vers la région bordelaise, c'est pas impossible que vous soyez enfermé chez vous.
Il ouais, faut pas en vouloir hein, aux petits jeunes qui animent là. C'est leur début, c'est 23h à la stage là, normalement c'est censé dormir. Comprenez. C'est pas facile pour eux passer une certaine heure de parler correctement. Pas en vouloir.
Une expérience.
C'est ça.
Donc là je vais être viré de l'épisode.
Non.
Covid.
Alors pour le coup, moi ce que j'en ai pensé de l'album, c'est que bah malgré le fait que ce soit mine de rien, comme disait Loïs, un gros pavé, bah moi j'ai trouvé ça quand même vachement cool. C'est tout pour moi, non je rigole. J'avais trouvé ça vachement cool, malgré ouais, le fait que ce soit quand même bourré d'effets. Il y a des fois où c'est limite inaudible en fait. C'est très compliqué des fois de comprendre un peu ce qu'ils essaient de nous faire comprendre.
Inaudible, c'est peut-être trop dans l'expérimentation, tu vois, peut-être qu'ils vont peut-être un peu trop loin.
Ouais.
La salle space mais, rock, hein.
Ouais, mais par contre, un point positif, c'est quand c'est tellement dense au niveau du son, c'est tellement lourd qu'en live, par contre, ça doit être super impressionnant.
Mais je te conseille vraiment le live KEXP, comme a dit Loïs. Et d'ailleurs, je vais en placer une, parce que au KEXP, il y a aussi Lucy in Blue qui a fait un live, qui est un super groupe que je conseille pour ceux qui connaissent pas. Voilà, c'est passé.
Lucy in Blue, putain, mais ça me parle pas du tout. Je, alors là, vraiment.
C'est pas comme si j'avais connu ça dire, grâce au report des Airfest. Et que à cause de ça, j'ai un peu acheté le vinyle.
Je veux dire, c'est pas du tout un groupe que j'ai placé sur mon podium de l'an passé, auquel j'ai pas du tout acheté deux fois le vinyle et que j'ai pris une gifle au désert. C'est pas non, vraiment, c'est un groupe que je connais pas vraiment.
Tout.
Non, vraiment.
Un petit groupe.
Et pour le coup, c'est un groupe qui, malgré le fait que ce soit très lourd, c'est un gros pavé, il arrive quand même à créer une certaine ambiance. Moi, j'ai eu l'impression de limite avoir une bande originale pour un film de SF. Apparemment.
Après aussi.
C'est genre. Je le voyais bien sur un film du genre Seul sur Mars, ou un truc du genre. Où t'es dans un voyage spatial, etc. C'est quelque chose qui pourrait en tout cas fonctionner. J'ai trouvé certains passages quand même très jazzy. Il y a des morceaux où je me suis dit, mais putain, mais. Là, mais il a fait Berkeley en fait. Et donc.
C'est surtout au niveau de la.
En fait, non, parce que c'est des Français.
Au niveau de la batterie est très ronde, des fois il y a des longues cavalcades, ça fait très jazzy, vraiment. Surtout sur Lion, Tigers and Bears et tout d'ailleurs, je l'ai réécouté, et ça m'a fait vraiment tilter. Tu vois, t'as la batterie qui fait ses cavalcades enchaînées, et ça fait vraiment un côté très très jazzy.
Effectivement, ouais. Pour le coup, comme disait tout à l'heure Loïs, on a l'impression que ça fait. On écoute un seul morceau, et tout justement, c'est parce que les morceaux se suivent très bien. Bon, ce qui mine de rien pour l'ambiance du disque en général est quand même pas mal. On n'a pas des vieilles coupures un peu dégueulasses, ce qui peut arriver souvent et c'est vraiment pas agréable. Au niveau de la pochette, donc réalisée par Kaza comme j'ai dit tout à l'heure, moi elle me fait beaucoup penser à la pochette de Surfing with the Alien de Joe Satriani. Mmh.
J'ai écouté Joe Satriani.
Ouais. Ça se comprend avec cette espèce de personnage très musculeux, mais le fait d'être en noir et blanc, ça le rend un petit peu. Argenté et cette position très avancée, ouais. Je comprends que ça te fasse penser au surfeur, tout à fait.
Pour le coup, on va continuer sur les rapprochements. Il y a certains moments où ça me fait penser à Elder aussi, surtout sur comment ils placent leurs ambiances. Bon, c'est assez, dans un sens assez différent parce que Elder c'est quand même beaucoup moins beau en effet que Slift.
Et c'est bien meilleur.
Oui.
C'est pas faux. parce que
sans manquer de respect à Slift, attention.
Oui, évidemment, évidemment. Mais enfin, quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Elder, en termes de composition, etc., c'est quand même assez au-dessus. Même en général, dans la scène Stoner, Elder, je trouve que c'est assez au-dessus de ce que j'ai pu écouter, en tout cas.
C'est Elder, c'est dans les veines, dans la gueule, en oxygène, partout. On veut ça partout.
Je vous laisse deviner de quel groupe on va parler après ce lift. N'hésitez pas à répondre dans les commentaires et à gagner rien du tout. Il n'y a pas d'argent, parez-vous.
Votre poids en pépites de chocolat.
Faites des dons. Oui, non, il n'y a pas les thunes pour ça, il n'y a pas les thunes pour ça, on n'a pas le budget.
arrête, on va griller l'8ème studio, arrête.
Donc oui, pour le coup, c'est à la fois très organique, mais aussi très synthétique. C'est assez bizarre le sentiment que j'ai eu pendant l'écoute de cet album-là, parce que j'avais l'impression de planer, mais de planer dans un bac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était super contradictoire un petit peu, parce que t'as à la fois le son très ambiant du groupe, mais c'est tellement saturant en effet que bah, des fois ça peut te sortir du truc, puis tu t'y remets, etc. C'est vraiment particulier. Et je finirai juste par Lions, Tigers and Bears, juste exceptionnel, incroyable.
Après, tu vois, sur l'album, moi aussi je trouve qu'il y a un problème de rythme. Genre, l'album il commence très fort avec des morceaux comme Omen, Citadel on a Satellite et tout. Je trouve que ça envoie de suite du lourd. Et à partir de Altitude Lake, t'enchaînes plein de morceaux qui sont beaucoup plus ambiants, beaucoup plus calmes. Et du coup, c'est vrai que ça peut te perdre au niveau de l'album en fait.
Bah, il y a peut-être un petit ventre mou en fait au milieu de l'album.
Non, pas un ventre mou. Non, me fais pas dire ce que j'ai pas dit parce que. Mais bon.
Enfin, c'est un ventre mou très qualitatif, hein, mais c'est un ventre mou.
T'as des morceaux, moi, que j'adore comme Dark West Space, Cold Where the Stars, paye ton titre. Mais voilà. Au milieu de l'album, t'as vraiment des morceaux qui sont plus calmes. Et après, quand t'as Lion, Tigers and Bears qui arrive, ça remonte d'un coup, quoi. C'est une longue épopée, quoi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un petit problème de rythme aussi.
Ouais, pour le coup, comme disait tout à l'heure Loïs, je pense qu'en fait, pour un morceau comme ça, c'est un peu compliqué de le placer en fin d'album, parce que mine de rien, l'album, c'est un sacré pavé. Et se taper un morceau aussi long et aussi dur à digérer en fin d'album, je pense que c'est peut-être pas la bonne chose à faire aussi.
Ça aurait été la bonne chose à faire si, et ça reste que mon avis évidemment, s'il y avait eu moins de morceaux. Je pense qu'un album un petit peu moins long aurait permis à ce que Lions, Tigers and Bears soit la pièce finale d'un album incroyable. Et je pense qu'il a sa place en fermeture. Mais on a du mal à l'apprécier vraiment parce qu'il y a tout ce qui se passe avant qui fait qu'on est peut-être un peu fatigué de ce voyage interstellaire qu'on se tape depuis une heure avant qu'arrive le dernier morceau. Mais en soi, enfin voilà. Jetez-vous quand même sur l'album et jetez-vous sur ce morceau et surveillez Slift parce que ça m'étonnerait pas qu'on les voit prendre des places dans la scène stoner dans les années futures parce que il y a du talent là-dedans, il y a du vrai talent là-dedans.
Oui, totalement.
Et puis en plus c'est français.
J'ai beau trouver beaucoup de défauts à l'album, je trouve quand même que ça reste un super album qui reste dans mon top de l'année. Mais voilà, le groupe je vais le suivre de très très près. Hein. Vraiment, parce que je pense que...
Et puis faut pas oublier qu'ils sont jeunes aussi, mine de rien.
Comment ?
Faut pas oublier aussi que c'est un groupe jeune, mine de rien.
Ah oui, totalement.
Et bien sur ces belles paroles, je pense qu'on va passer au deuxième morceau de cet épisode. Donc, on a eu un choix assez cornélien, parce qu'au départ, moi j'avais pensé à tout justement passer Lions, Tigers and Bears. Mais voyant la durée du morceau, je me suis dit que j'allais éviter de vous infliger cette torture.
Non, c'est pas une torture, c'est un super morceau, mais 18 minutes, quoi.
Oui, mais quand t'écoutes un podcast, en général, t'écoutes les gens parler.
C'est vrai.
Donc, voilà. Donc, on a fait un choix. On a décidé de vous parler du morceau qu'a évoqué tout à l'heure Loïs, il me semble. Le morceau Altitude Lake.
Un des meilleurs de l'album, je crois.
Et je tiens juste à préciser que le dernier morceau, c'est bien Lions, Tigers and Bears, hein, et pas Bears. Hein. C'est bien des ours et non pas des bières. Je vais excuser l'animateur qui a très soif.
Oui. Je tiens à préciser que je rentre en licence d'anglais dans 2 semaines et vraiment je commence à me dire que je suis une honte.
Bière.
T'inquiète. TKT, bébé.
Apéro.
Oh, apéro.
Oh putain.
On vous laisse avec le morceau Altitude Lake et on revient de suite. Et donc, c'était le morceau Altitude Lake du groupe toulousain Slift, tiré de l'album Amon, qui est sorti en début d'année 2020. Et pour le dernier album de cet épisode, on va parler d'un groupe que vraiment personne n'avait anticipé. Il n'y avait aucun pré-shot possible, on va parler d'Elder.
Désolé, là j'arrive pas à trop d'émotions.
J'ai entendu tes bras tomber d'ici, Léo, c'est...
Moi je pensais qu'on allait parler de Green Day, tu vois.
Allez, merci à tous, c'était Dark Side of the Prog, retrouvez-nous la semaine prochaine. Je dis ça alors que je suis pas du tout dans l'épisode de l'émission, mais...
les seuls qui comprendront sont ceux qui sont au courant du passif qu'a Loïs avec Green Day. Parce qu'il faut savoir que Loïs n'aime pas le vrai rock.
Moi j'aime uniquement la musique faite par les producteurs suédois. C'était sur cette même pub. Hein. Faut bien se souvenir que c'était No Swedish Producer, No Bullshit, 30 Minutes of Real Pure Uncut Rock. Mais tu fais, ah ouais, d'accord, ok, super. Ok, boomer.
C'est ça le rock, d'accord. Et ça joue en Bermuda aussi.
Ah bah, si Green Day c'est le vrai rock, eh bah on est pas dans la merde, hein.
Eh bah, je vais me mettre à écouter de la pop, mes amis. Mine de rien, la pop c'est quand même vachement bien, hein, comparé à Green Day. Bref, on va arrêter d'en parler parce que ça, je commence à avoir l'urticaire, ça commence à me. Non, ça me va pas.
Écoutez la musique de
trou,
écoutez
Joule. Joule.
Et c'est ce qui signe la fin de cet épisode, mesdames et messieurs. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Il y a combien de fins d'épisodes, faudra qu'on les compte.
Pas assez.
Pour les rares, en tout cas, qui ne connaissent pas Elder. Elder est un quatuor de stoner, maintenant aujourd'hui stoner très 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 metal prog sur les bords, américain, qui est composé de Nick
Rock
Hisselbo.
Prog, plus que metal prog, sans vouloir être méchant avec ton intro. Je le trouve pas métal dans le son, je le trouve beaucoup plus.
Ah moi je trouve surtout c'était la lourdeur qui faisait un petit peu le côté métal. Je trouvais qu'il y a certains passages qui étaient quand même vachement lourds pour du rock.
Ouais mais j'aurais du mal à les mettre dans le métal, tu vois. Autant en rock progressif je trouve que c'est justifié avec leurs morceaux à tiroir, leurs intentions voilà, de faire des changements de rythme, des changements de phase. Je trouve que c'est pas si lourd que ça, Edler. Je trouve qu'il y a beaucoup plus un côté planant qui devient de plus en plus maître dans leur musique.
Mais ils l'ont toujours eu, mais surtout depuis Reflections of the Flatted Earth.
Avant, c'était quand même un gros riff fest qui pouvait être un peu plus métal dans l'idée et un peu plus stoner à la base. Mais ouais, depuis, il y a toujours une évolution depuis leur premier album. C'est vrai qu'avec Reflection, puis les Gold and Silver Chasins, on a senti vraiment une évolution. Déjà, il y a eu une évolution dans le line-up. Et là, je suis en train de te flinguer ton intro, je suis désolé. Mais il y a eu une évolution musicale dans l'approche sonore et dans l'approche des compositions qui s'est continuée avec Omens qui est sorti cette année. Donc, voilà, je considère qu'ils sont plus rock. Après, vous en ferez votre propre avis. De toute façon, allez écouter Elder. Voilà.
Oui, écoutez Elder parce que c'est bien, oui. Donc, pour le coup, donc, au niveau du line-up, Loïs a dit qu'il y avait eu quelques changements. Donc, pour le coup, le line-up actuel est composé de Nick DiSalvo à la guitare et au chant, de Jack Donovan à la basse, de Mike Reisberg à la guitare et au clavier, et George Ebert à la batterie. Donc, Omens qui est sorti en avril, il me semble, oui, le 24 avril 2020. Et le cinquième album du groupe, sans compter les deux EP qui sont sortis précédemment, l'album est sorti pardon sur deux labels différents, donc sur Armageddon Label et Stickman Records, donc un label qui s'occupe de tout ce qui est un peu Europe, etc. Et si j'ai bien compris, l'autre s'occupe surtout de ce qui est partie Amérique, donc Amérique du Nord, Amérique du Sud. On va poser le décor tout de suite. Omens, c'est 5 titres, 55 minutes.
C'est d'ailleurs... Ça a été d'ailleurs mon angle d'attaque sur GrammySmith.fr. Désolé, je fais ma pub, mais c'est là où je parle de Domains et je fais une petite chronique de cet album. C'est que on est dans un monde où il faut de plus en plus faire des morceaux courts tout le temps pour captiver l'attention, etc. Et eux, ils en ont rien à branler. Ils arrivent, ils font « Non, on prend notre temps, on construit des trucs avec notre musique. » Et je trouve ça bien voilà, qu'il y a encore des groupes qui gardent cette volonté de vouloir prendre leur temps et de vouloir construire des choses. Et ça, c'est très important, c'est très frais.
Coucou Toul.
Et t'as dit quelque chose de très important, c'est qu'il y a eu l'arrivée de Mike Reisberg à la guitare, mais surtout au clavier. Parce que ça a été un changement dans la musique de Leader. Surtout sur les Golden Silver Sessions, où le clavier a pris une place vraiment importante, et ça s'est confirmé sur ce Omens. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve que le clavier est excellent. Les claviers, parce qu'il y a différents types de claviers, d'orgue, etc. Mais je trouve que c'est une excellente addition à la musique du groupe, et je trouve que ça les aide vraiment à partir sur des territoires progressifs. Et ça a été une belle inspiration de rajouter des claviers, de faire de cet Omens, pour moi, au moment où on enregistre, en septembre 2020, Omens est mon album de l'année. Voilà, je vous le dis. Est-ce que... Il y aura sûrement peut-être des groupes qui vont peut-être venir à la dernière minute bousculer ça, peut-être Paul Bearer et d'autres, mais sans s'en branle.
The Ocean.
Mais voilà, je trouve que The Ocean peut-être aussi, tout à fait. Mais voilà, je pense sincèrement que cet Omens est une incroyable réussite. Je sais qu'il est pas aimé par certains parce qu'il y a le chant de Nick DiSalvo qui peut être un petit peu dissonant sur certains morceaux, je peux comprendre.
Ouais, ça peut être repoussant, ouais.
Ça peut surprendre. Je peux comprendre que le chant de Nick DiSalvo peut un peu surprendre, mais sincèrement... L'album en vaut vraiment la peine. Ne serait-ce que pour Halcyon, qui est pour moi...
Le morceau de l'année, tout simplement.
Pour moi, hein, je précise bien pour moi, attention. Hein. Pour moi, oui, Halcyon est le morceau de l'année.
Pour moi aussi.
Sincèrement.
T'inquiète pas.
Et pour le coup, tu parlais aussi de changements un petit peu musical, etc. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais pour moi, en tout cas de ce que j'ai compris, il y a eu aussi un grand changement à partir du moment où le groupe a changé de zone géographique aussi. Parce qu'il faut savoir que le groupe est de Boston, et si j'ai bien compris, là ils sont installés à Berlin, et ça a eu un gros impact aussi sur l'évolution que de la musique d'Elder.
Ouais. Bah tout à fait, je crois que je sais plus quel est le membre qui est encore à Boston, je crois qu'ils sont pas tous à Berlin. Je sais qu'il y en a un qui est encore à Boston, et que du coup pour les sessions d'enregistrement, etc., c'est un petit peu plus compliqué. Je sais pas si c'est pas le bassiste qui est encore à Boston, j'ai un doute, mais vous irez checker, de toute façon l'info se trouve facilement dans les interviews de Nick DiSalvo. D'ailleurs, si Nick DiSalvo avait pu répondre à mes questions d'interview que j'ai balancées il y a 3 mois, ça aurait pu être très sympa, mais bon, ça c'est...
La petite pique
voilà,
gratuite.
Ça fait un peu mal.
Pain intensifies.
Ça fait un peu mal, on va pas se mentir, mais bon. Mais oui, le changement à Berlin leur a apporté des nouveaux membres, une nouvelle vision, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, il y en a qui préféreront les débuts parce que c'était beaucoup plus rentre-dedans et beaucoup plus usine à riff. Ça se comprend, c'était le early Elder est très 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 bon. Moi, je préfère le Elder de maintenant.
Et pour le coup, moi, je vais me permettre de continuer un petit peu sur l'album. Alors pour le coup, en termes d'entrée en matière, je pense qu'on est sur un perfect. Clairement, la petite intro de Omens avec les claviers, etc. Pour moi, on peut pas faire mieux, c'est pas possible. Vraiment, ça nous met directement dans l'ambiance. Quand on écoute l'album, c'est un peu comme si on nous avait filé une petite seringue de crack et une pédale de fuzz. Tiens. Moi, c'est le ressenti que j'ai eu la première fois que je l'ai écouté. Je l'ai écouté en début d'année avec le confinement, etc. Mon premier album de Stoner. Et pour le coup, j'ai pris une giga tarte. Vraiment, c'est 55 minutes qui sont passées, mais comme c'est l'inverse de Green Day, tu vois. C'est presque une heure d'album qui sont passées, j'ai l'impression, en 30 minutes. C'est hallucinant.
Bah surtout toi qui es fan de musique progressiste et progressive, parce que bon, faut dire progressiste normalement à la base, mais c'est progressive. Tu tombes sur Elder, tu pouvais pas mieux tomber selon moi pour t'initier au stoner. Je trouve que c'est une magnifique entrée en matière quand tu aimes cette musique.
Et bah c'est exactement ce que notre cher compère Paul Bruch m'a dit, pour le coup, celui qui m'a conseillé l'écoute. C'est vrai que c'est très 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 prog. Pour le coup, je ressens surtout l'influence prog sur les petites envolées instrumentales qu'il y a souvent. Faut savoir que donc tout à l'heure Loïs le disait, le chant de Nick DiSalvo peut un petit peu rebuter, mais il est, je trouve, quand même pas énormément présent par rapport à la quantité de durée de musique qu'il y a pour le coup. C'est beaucoup de morceaux.
Dans Elder, t'as toujours eu de très grosses parties instrumentales. Toujours.
Donc pour le coup, je sais pas trop parce que, à part les Gold Sessions, je crois, je me souviens plus du nom.
Gold Silver Sessions.
Ouais. Et c'est les deux seuls que j'ai écoutés pour le moment. Et pour le coup, je sais que moi j'ai une préférence pour Romance. Mais après, c'est différent parce que Comments, c'est un album écrit. Les Golden Silver Sessions, c'était de Jam.
T'as pas écouté Lore aussi de mémoire?
Donc c'est un petit... J'ai juste commencé à écouter pour le coup, donc je pourrais pas trop en parler parce que j'ai peur de dire des bêtises. Déjà que même avec de la documentation, j'en dis pas mal, donc voilà, éviter de perpétuer un massacre. Quand le groupe parle dans ses épopées instrumentales, mais c'est bon pour le coup, moi j'ai aucun problème avec la voix de Di Salvo. Pour moi, vraiment, ça colle parfaitement l'ambiance. Il y a des morceaux qui m'ont mis des gigabaffes. Le morceau In Procession qu'on vous passera à la fin de l'épisode. Pour moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Tout à l'heure, Loïs a parlé d'Alcyone, qui est aussi excellent. Tous les morceaux longs, tous les morceaux de toute façon de l'album sont longs, mais c'est tellement bien composé que ça passe super rapidement. Pour le coup, pour moi, c'est imperfect. C'est peut-être pas mon album de l'année parce que devant il y a des petits Britanniques et des petits Australiens, etc., et des Suédois aussi, qui viennent se poser par là. Mais pour le coup, que ce soit In Procession, Omens, donc les deux premiers morceaux d'album, après vous avez Embers, Alcyone, One Light Retreating, qui sont vraiment des morceaux qui sont géniaux. La voix de Di Salvo se mélange parfaitement à la musique du groupe. C'est juste très bien dosé avec un super rythme. Par exemple, la décision qui a été prise de mettre One Light Retreating en fin d'album pour clôturer l'album, pour moi c'est vraiment mais juste parfait pour finir l'album. En plus, le petit coup de génie avec le leitmotiv la petite mélodie du début de Omens, qui fait un petit rappel de l'introduction de l'album. Pour moi, en tout cas, c'est un de mes gros coups de cœur de l'année, qui, sans aucun doute, par contre, se retrouvera facilement dans mon top 10, voire même aisément dans mon top 5. Et sur ce, moi, je vais laisser la parole à Léo.
Moi, j'ai juste envie de dire, toi qui dis In Procession meilleur que Alcyone, quelle indignité. Je suis déçu.
C'est vrai que ça m'a surpris aussi, je vais pas mentir, mais après je respecte entièrement.
Non, c'est deux très bons morceaux.
Alors pour le coup, je trouve que Alcyone c'est un super morceau, mais moi je sais que ne serait-ce que le petit riff au début de Di Salvo à la gratte au début d'une procession, moi c'était terminé. Dès que je l'ai entendu, c'est bon, j'étais full charme.
Il y a un truc qu'il faut qu'on dise qu'on n'a pas forcément dit depuis le début, c'est que la production de Menz, okay, elle est magnifique.
Oh oui.
Parce que c'est ce qui fait que les 55 minutes, elles passent comme si c'était 30, c'est que c'est d'une limpidité. Tout est dosé à la perfection. Les guitares sont pas trop fortes par rapport à la basse qu'on entend juste nickel. La batterie, elle surnage pas. Tout est très très bien fait. Le mix est magnifique aussi. Enfin, sincèrement, voilà, c'est un superbe album. Et Alcyone est mon morceau préféré. J'aime énormément One Light Retreating, pardon, qui, comme tu l'as dit, mon cher Manu, termine excellemment bien l'album.
Et pour le coup, du coup, ça va me permettre de faire un autre rapprochement avec Tool, donc outre la durée des morceaux. C'est vrai que ces deux albums qui sont mis super bien produits, moi je sais que j'ai écouté beaucoup de gens parler sur le dernier Tool l'été dernier, parce que en étant un fanboy hardcore de Tool, forcément moi tout ce qui est production comme ça passe tout de suite, et pour le coup c'est peut-être aussi quelque chose qui m'a fait rentrer dans l'univers d'Elder, tout justement c'est la production que j'ai trouvé juste magique.
Et du coup moi aussi du coup j'ai beaucoup aimé cet album. Alors Elder, j'ai connu sûrement avec Sens Critique, je viens d'entendre parler ensuite avec Spotify, et j'ai vraiment commencé à écouter, c'était avec Les Valeurs, ils avaient passé le morceau de Gemini, j'ai fait mais c'est trop bien, puis j'ai bouffé la disco, j'ai trouvé ça super bien. À part peut-être Reflections, que j'ai eu beaucoup de mal à digérer, mais que finalement c'est un album que j'aime beaucoup. Et puis quand Omens a été annoncé, ils ont balancé Embers, que j'avais pas encore écouté, j'ai vu 10 minutes le single, j'ai fait bon, vas-y, j'écouterai l'album en entier. Et j'ai lancé l'album, sorti le même jour que Catatonia, il me semble. Et j'ai écouté Catatonia, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
C'est possible.
Et Catatonia, je sortais du taf, et puis je m'écoute Omens. Et là, méga giflasse. Et à peine j'ai fini l'album, je suis parti me le commander en vinyle.
Ouais, bah parce que petite comparaison, pour le coup, vraiment, le Elder est à des années-lumière au-dessus du Catatonia.
Oui, le Catatonia est un très bon album. Omens, c'est encore mieux, c'est beaucoup mieux. Mais bon, à cause d'eux, du coup, je me suis encore ruiné en vinyle. C'est génial.
Oui, et pour le coup, aussi, les éditions vinyles des albums d'Elder sont juste magnifiques.
En tout, oui. Mais voilà, après...
Ils sortent des éditions à chaque fois qui...
Après, le truc qui m'a étonné, c'est que j'ai vu aussi... Après, comme disait Loïs, j'ai lu quelques critiques sur l'album. Et c'est clairement pas un album qui a fait l'unanimité, hein. Autant sur Sens Critique, il a une bonne moyenne, il me semble. Mais après, il y a des gens qui l'ont défoncé en disant que Alcyon, c'était un morceau qui était chiant, pompeux, que Nidhi Salvo savait pas chanter. J'avais envie de foutre des tartes, hein. Je vais pas vous le cacher. Mais moi, le chant de Nidhi Salvo, je trouve juste touchant, je trouve. Je trouve qu'il colle super bien à l'ambiance, comme disait Manu. Je trouve que, voilà, même instrumentalement, quand l'album commence avec Omens, avec ses claviers et puis ses grosses guitares qui arrivent, ce mur de son que tu prends, cette montée en puissance, moi vraiment, cet album est incroyable. Et puis voilà, Alcyon, je pense qu'on en aura pas assez parlé, parce que c'est vraiment un super morceau. C'est 12 minutes de pur bonheur.
Et puis ça fuzz, c'est magique, ça fuzz.
Ça fuzz même pas tant que ça, hein, ouais. Tu sais.
Ouais, mais le fuzz est tellement bien. Alors, je trouve que le fuzz est tellement bien réglé que. Ça fuzz, mais pas tant que ça, mais enfin, c'est juste bon, quoi. C'est
comparé à un lore, crois-moi, il y a beaucoup de moins de fuzz. Hein. Mais.
Ah oui, bah, ça, je me doute bien, parce que déjà, ce que disait tout à l'heure Loïs, c'est beaucoup moins en dedans qu'avant. Mais mine de rien, la saturation des guitares donc de Nidhi Salvo et de Mark Reisberg, quand il est pas au clavier, c'est du fuzz, et pour le coup, c'est pas une fuzz qui est lourde comme ça peut l'être dans beaucoup de groupes de stoner, mais tout justement je trouve que cette utilisation-là de la fuzz, elle ajoute un truc.
Ouais, je suis plutôt d'accord. Et voilà, après aussi, pour ajouter un petit truc sur Elder, moi ce que j'aime dans les groupes, c'est des groupes qui vraiment se renouvellent, qui ne réutilisent pas tout le temps la même recette, tu vois. Et je trouve que Elder, vraiment, il commence avec un premier album que je n'aime pas tellement, qui est vraiment très stoner, assez doom même, avec le chant que je trouvais pas terrible, et puis après de Dead All Staring à Lore à Affections à Omens, ils ont eu une évolution que je trouve exemplaire, vraiment. C'est les mecs, ils ont tenté des choses, des trucs plus planants, ils ont rajouté des claviers. Vraiment, je trouve que Omens, pour moi, à l'heure actuelle, et je pèse mes mots, je pense que c'est vraiment leur meilleur album, et c'est aussi. Je sais pas si c'est mon album de l'année, parce que derrière, il y a un album d'un groupe pas très connu qui commence par The et qui finit par Strokes, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est vraiment un des albums de l'année, et je pense que ça va pas bouger d'ici là, quoique on sait jamais. Mais c'est vraiment un super disque.
Aurais-tu des choses à rajouter, Loïs ?
Bah non. Enfin, je sais pas si vous avez. Si vous avez pas compris, après tout ce qu'on a dit, qu'il faut. Terminer l'épisode et lancer Omens, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Au bout d'un moment, on peut pas plus être clair. L'album est extraordinaire. Voilà, au bout d'un moment,
on peut pas aller chez vous et lancer votre Spotify et votre Deezer, c'est pas possible.
On va vous menacer avec un 9mm, toi devoir écouter ça.
Bon, c'est peut-être un peu extrême, bon, on va se calmer, mais.
Mais non.
Mais non, mais c'est. Enfin, ouais. Sincèrement, voilà quoi. Elder pour moi c'est peut-être le meilleur groupe de la scène stoner actuellement. Avec cet album, je pense qu'ils sont pas. Déjà, c'était un groupe qui était très très haut coté dans la scène stoner, mais alors là, voilà, je pense qu'ils sont passés un cap.
Un cap. Hein. Et bien sur ces belles paroles, nous allons vous dire au revoir. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin, malheureusement.
Oh non!
C'est ce que dit toutes mes copines. J'ai honte de cette vanne, c'est incroyable. Sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, un grand, grand merci à Loïs d'avoir été présent pour nous illuminer de son savoir stonerien.
Ouf. L'invitation m'a fait plaisir, je suis très content d'avoir été là. Et puis, si vous aimez les épisodes A3 de Dark Side of the Prog, je pense qu'il va falloir vous habituer.
Oh oui. Ouh, teasing, ouh.
T'as vu, c'est ça le.
Ouh.
Hein, t'as vu un peu le.
Ah, mais qu'il est bien urbain, qu'il est bon.
T'as vu un peu.
Il est bon le Loïc, et pas il est bon le Nathan.
Alors, ça sort des vrais refs là. Là, on est vraiment sur quelque chose de. Voilà, hein. Très bien.
Ah mais on avait prévenu que c'était peut-être pas forcément des vannes de bon goût, etc. Voici la mise en application de tout ça.
Excuse.
Si vous avez des retours. Excuse. Si vous avez des retours à nous faire à propos de l'émission, ou des conseils pour, selon vous, améliorer tout ça, ou tout simplement nous suivre, savoir un petit peu ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on écoute, etc., n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc à savoir le Twitter de l'émission. Je sais pas encore si au moment où sortira l'épisode, il y aura un Instagram pour l'émission. On verra ça.
Moi, je pense que
on peut aussi... Je pense, mais je m'avance pas trop parce qu'on sait jamais. Vous pouvez aussi nous suivre tous les trois sur nos réseaux sociaux respectifs. Tout sera dans les descriptions de toute façon. Même ceux de Loïs. C'est pas magique ça.
Putain, incroyable.
Moi, je paye un petit supplément.
On s'arrangera avec nos avocats.
Oui. Sur ce, comme d'habitude, ce fut un grand, grand, grand plaisir de vous parler, et j'espère qu'en tout cas vous avez pris plaisir à nous écouter. On va vous laisser, alors je suis désolé, mais c'est pas être sur le morceau à l'espagne.
Aïe, coup dur pour Guillaume.
On va vous laisser sur le morceau In Procession, parce que j'ai peut-être un petit peu forcé pour le mettre, parce que bah, je suis en amour sur ce morceau. Je suis désolé. Sur ce, on vous fait des bisous, mais pas trop, parce que, bah, Covid-19, et mettez vos masques.
Oui, oui, mettez vos masques. Le nez aussi, ça compte, hein. Le masque, oui, c'est le nez aussi, hein.
Quand vous mettez vos caleçons, vous ne laissez pas sortir la chose de votre caleçon. Donc, pareil pour le masque.
Votre petit bicou, là.
Petit bicou. Sur ce, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à la prochaine, et on vous laisse surtout sur In Procession. Des bisous.
Salut.
Bye.
Je ne sais pas pour vous, mais là, en région bordelaise, il fait chaud.
Comment ça va, je suis bien.
Je sais pas pour vous.
Tu es bien.
Comment ça veut dire beaucoup.
Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, avec nous. Jouer le piano debout.
R.I.P. in peace, sweet prince.
Tout soon.
C'est d'ailleurs un petit aparté. Est-ce que, après l'épisode de la pause clope, est-ce que t'es parti écouter d'autres albums de Prince?
Voilà.
Ah.
Et c'était clairement pas le pire épisode, hein, de Prince. Hein.
La fameuse imitation de chant sur la reine trieuse, moi ça m'a un peu tué, mais...
Je ne dirai rien. Et ce morceau m'a traumatisé. Et
J'ai vu ça.
Mais je suis... petit... Ah, quel enfer. Quel enfer. Ouais.
J'ai limite envie de dire, viens, on met ça en intro, quoi.
Oh, mais... Avec la scène, je peux te dire que... j'ai l'habitude de pas de me ridiculiser, c'est pas ça, mais d'avoir des casseroles sur moi en fin d'épisode où je dis de la merde,
j'adore.
Donc je suis pas à ça près, hein. Je suis clairement pas à ça près.
Apéro
insupportable de tout, quoi. Enfin, vraiment.
Bon, je pense que pour Elder on est tous d'accord pour dire que c'est pas terrible, hein.
Non, vraiment pas,
c'est
bien
de la merde.
Non, c'est pas... Très déçu. Vraiment pas de talent.
Ouais.
Très peu inventif. Non, vraiment.
C'est mauvais musicien.
Pas ouf les types. Ouais, non, pas ouf.
Si médiocre que je vais porter plainte, je crois.
Oui, bonjour, je vais porter plainte pour vol de temps, s'il vous plaît.
Pour viol d'oreille, s'il vous plaît.
Excusez-moi, j'aimerais qu'on me rende, mais c'est affreux.
Oh non, pardon, j'ai confondu avec Green Day, je suis désolé.
Non mais on en parle.
J'étais obligé, je suis désolé.
On en parle, le dernier Green Day, il dure même pas une demi-heure. J'ai l'impression qu'il dure 3 heures minimum. Je l'ai...
Ah écoute, dis-toi que je l'ai écouté 5-6 fois pour en faire une chronique sur Soundbazer. Hein.
Mais une fois, ça m'a suffi.
T'es pas devenu fou?
Pardon?
T'es pas devenu fou, c'est bon?
C'est une expérience. Sincèrement, c'est une expérience à vivre parce que tu te rends compte d'à quel point les types, ils ont 20 ans de retard. C'est formidable. C'est un scandale.
Moi, je l'ai écouté une fois, je me suis dit, ah, c'est bon, j'y ai passé l'après-midi. Non, j'y ai passé une demi-heure.
Pareil.
mais c'est ça qui est ouf, c'est que t'as vraiment l'impression que l'album il dure 40. Enfin, en ressenti, il fait vraiment 50 minutes, 1 heure, alors qu'en fait il en fait 26.
Ah non, non, pour moi il en fait
4. Il en fait. Non, mais c'est hallucinant, les claps, les oyels, la production, le son, y'a rien qui va.
Non, et puis le... on va vous proposer du vrai rock, tu vois.
Pardon, pardon, si moi j'ai le réflexe.
I was a teenager.
Oh putain. Yeah! Ah yeah! Ah yeah!
Oh putain.
Putain, j'en ai marre. Et déjà, tu sentais que cette année elle sentait la merde avec un tel album en début.
Oh putain, ouais. Au secours, quoi, putain.
Oh putain.
Le secours. Puis le... Non mais le pire c'est que cette merde là ça se vend bien hein, en plus. Hein.
Je trouve pas qu'il y ait de bon ou de mauvais Green Day.
Oh putain.
Non, il y a que du mauvais.
Oh, alors je me repens, quand j'étais petit j'étais archi fan de Green Day.
Il y a des morceaux qui sont bien.
En vrai, je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont bien, mais c'est juste que je supporte pas Billy Joe Armstrong, donc en fait je suis hyper biaisé par.
Ah ouais. Genre des petites tartinettes. Putain, on fait des références à Astérix, c'est ouf.
Une bolinette, c'est un petit bol.
Une bolinette, c'est un petit bol. Bon. Alors, on va parler d'Elder.
Ok. Pas ouf.
Ah merde.
T'es vieux. Je t'appelle la perche.
Les anciens.
Je t'appelle la perche. Je t'appelle la perche.
Bon, allez.
Et tu t'appelles la perche.
Fais ton lancement.
Il t'a pas la mémé, j'arrête. Bon.